Utopod 026, 24 janvier 2009. L'île close de Lionel Davoust, première partie. En partenariat avec la librairie IS, www.libry.fr. Bonjour et bienvenue à tous. Un grand merci à Clément Bourgoin, directeur de la librairie IS, pour sa généreuse contribution financière. Son don permettra à Utopod de rémunérer plusieurs comédiens et ingénieurs du son, à commencer par ceux qui ont travaillé sur l'épisode d'aujourd'hui et sur le 027. La librairie, c'est une librairie en ligne spécialisée dans les livres d'occasion et les raretés, relevant des littératures de l'imaginaire. Soutenez le projet, allez faire un tour du côté de www.libris.fr. La nouvelle d'aujourd'hui, L'île close, est signée Lionel Davoust. Elle figure au sommaire de l'anthologie de Brocéliande en Avalon, parue en 2008 chez l'éditeur français Terre de Brume, sous la direction de Lucie Chenu. L'île close a été nominée au Grand Prix de l'Imaginaire 2009. Pour plus d'infos sur Terre de Brume, www.terredebrume, au singulier et en un mot.com. Vu sa taille, nous diffusons ce récit en deux épisodes, la première partie aujourd'hui et la seconde dans quelques jours. Lionel Davoust est né en France en 1978. Son diplôme d'ingénieur agronome en poche, il décide il y a quelques années de se consacrer à plein temps à sa passion première, la littérature. Il publie des critiques, collabore à la revue Galaxy, puis co-dirige la revue Asphodale avant de se concentrer sur l'écriture et la traduction littéraire. Il travaille notamment pour la maison d'édition nantaise La Talente et a publié une dizaine de nouvelles entre 2004 et 2008. Les artisans invisibles mais néanmoins audibles de l'épisode 026 et 027 sont Charlotte Raymondin à la voix et à l'interprétation et Sylvain Demière à la prise de son et au montage. Charlotte et Sylvain sont deux piliers du Utopod. Pour leur disponibilité, leur talent, leur soutien indéfectible et leur gros travail, je tiens à les remercier chaleureusement. Qu'ils soient adulés jusqu'à la millième génération post-singularité et au-delà. Et maintenant, installez-vous confortablement à l'ombre d'un pommier, branchez votre esprit sur l'inconscient collectif et place à la littérature.
L'île close de Lionel Davoust. Guenièvre. Cher journal, je me demande encore pourquoi je t'écris. Après tout, demain tu disparus, hier tu disparaîtras. Rien ne change et tout fluctue sur cette île qui s'étrécit, se dilate. Sais-tu combien c'est difficile de vivre une infinité de vies à la fois? Une infinité, dis-je, en réalité il s'agit seulement d'un grand nombre, ou au fond je reste la même. J'ai consigné sans cesse ces mots sur le papier et je ne l'ai encore jamais fait. Je suis jeune et vieille. L'épouse qui aime est trahie, la figure hiératique. Mais surtout, je suis fatiguée. Oh, je ne me plains pas. De nous tous, Arthur porte le fardeau le plus lourd, mais aussi le plus glorieux. Le plus lourd parce qu'il meurt sans cesse, terrassé par Édipe, par Mordred, son fils qu'il aime et hait, sans mourir vraiment, puisqu'en partant pour Avalon, il revient toujours ici, et tout reprend. Il obtient l'épée et c'est là que les ennuis apparaissent. Car en définitive, son histoire ne débute vraiment qu'au moment où il incarne l'autorité suprême. Le reste n'est qu'un prologue, visant seulement à satisfaire l'appétit de l'esprit pour les commencements. Je n'ose plus envisager ce que je suis. Ce que je suis vraiment. Je vécus tant de variations de la geste, toujours la même histoire, la même trahison, sans pouvoir me libérer, évoluer. Je sais qu'il existe des limites que je ne peux dépasser. J'en mesure mal l'étendue et pourtant je les sens invisibles autour de moi, dictant mes actes, définissant ce que je suis à travers mes incarnations. Et je ne serai jamais rien d'autre. Je resterai à jamais dans les mémoires comme la reine qui trahit son époux, le plonge dans l'incertitude et le chagrin et précipite le royaume dans la nuit. Mais je ne peux m'en empêcher. À tout prendre, j'aurais préféré être Morgane la fée, l'énigmatique élève de Merlin, l'enchanteresse d'un autre monde, imprévisible, dangereuse. Sa réputation n'est pas meilleure que la mienne, mais au moins son aura mystérieuse justifie-t-elle en partie ses actes auprès de l'esprit. On la craint. Moi, on ne me hait même pas. On me méprise. J'aurais aimé être mauvaise, mais non, je suis juste faillible. Il fallait quelqu'un comme moi dans l'histoire, je suppose. Lancelot. Sous un ciel plombé, là où la terre brune glissait sous les flots calmes de l'océan, ou d'un lac si vaste que le brouillard en dissimulait la berge opposée, les habitants de l'île s'étaient rassemblés autour du chevalier. Vêtu d'une armure resplendissante, juché fièrement sur un immense palefroid caparaçonné, cheveux au vent, mâchoire carrée, Lancelot promenait une ultime fois son regard pur sur l'assemblée. Il sentait le fer et le gingembre, la bougie et le sexe. Tout Camelot retenait son souffle, respectueusement silencieux à l'approche de l'événement qui, par sa régularité et son caractère héroïque, avait pris des allures de cérémonie. Le chevalier termina la pomme dorée cueillie dans les vergers du château, la mangea jusqu'au trognon, puis accepta la lance que lui tendait son écuyer. Il brandit l'arme en criant d'une voix claire « Pour le roi !» Les spectateurs anonymes levèrent vaguement le poing en retour et poussèrent quelques acclamations dubitatives. Avant de baisser la visière de son aume, Lancelot se retourna vers le château, vers son amante, dépositaire d'une force tragique. Guenièvre n'était pas descendue sur la rive, mais il savait que leurs regards se croiseraient quelle que soit la fenêtre qu'ils choisiraient. Ils étaient liés. Camelot ne prenait jamais deux fois la même apparence, mais sur l'île, seules les significations importaient. Le favori du roi se retourna vers la berge, pointa sa lance et éperonna son cheval. Le coursier galopa joyeusement dans l'eau sans le moindre doute. L'assistance recula de quelques pas pour éviter les grandes gerbes d'éclaboussures. Très rapidement, l'animal sombra sous le poids de l'armure et du cavalier, disparut et se noya probablement. Lancelot tenta bien de nager, mais à son tour, entraîné par le fer, il coula à pic dans les eaux grises. Camelot suivit encore quelque temps les progrès du chevalier, au sillage de bulles qui marquait sa marche solide, imperturbable, vers le large. Puis, quand celles-ci se raréfièrent pour s'évanouir tout à fait, les spectateurs tournèrent les talons et remontèrent d'un pas lourd vers le château. Il commençait à pleuvoir. Ombre. Lancelot revint le soir même, ou peut-être était-ce la veille au matin. L'écoulement du temps semblait échapper à la volonté consciente. Quand tout le monde eut le dos tourné, une colline couverte de varechs se dressa sans bruit au bout de l'île, montant à l'infini jusqu'aux nuages uniformes. Le chevalier la descendit depuis la voûte céleste, toujours décidé, mais avec dans les yeux une pointe de désespoir. Il ruisselait. Le fer de son armure s'était coloré de rouille et d'algues, le sable avait collé ses beaux cheveux, et des alevins s'échappaient en frétillant de ses chausses. Aucune trace du cheval, mais un autre l'avait probablement déjà remplacé aux écuries. En bas de la pente, une grande silhouette vêtue d'une ample cape de nuit, au visage dissimulé par une capuche insondable, l'attendait. Lancelot ne lui accorda pas le moindre regard, la moindre parole. Il la frôla même, mais il poursuivit sa route, semblant se refuser à la voir, à reconnaître son existence. L'être de noirceur qui paraissait flotter, immatériel, sur la lande désertique, se retourna vers le chevalier avec une lenteur infinie. Puis il leva le bras en un coucou timide, avant de le laisser retomber et de secouer tristement la tête. Arthur. Mordred a gagné. Le Graal ne m'a pas sauvé. Ce fils incestueux, Cette haine que j'ai engendrée s'est levée contre moi, a rassemblé les forces des ténèbres et nous a écrasés. Mordred, tu es une injure à mes yeux, le distillat de la trahison de ta mère, ma propre demi-sœur. Tes pas empoisonnent la lande désertique, tu es la némésis du souverain suprême. Il en faut une. Je crois pourtant me souvenir qu'autrefois, nous combattions côte à côte. Je gis blessé, Excalibur à mon côté. Le roi s'en va, quitte cette terre gaste sans avoir pu la sauver, sans avoir pu racheter sa faute. Je meurs terrassé par une lance qui m'a transpercé le flanc, crucifié sur le pommeau de mon épée pour sauver les hommes. Mon épée, Khaled Vlch. Non, elle s'appelle Balmung. Non, j'ai tué le dragon avec Balmung sous le nom de Siegfried. C'est une autre histoire, et c'est la même. Ah, un voile rouge me tombe sur les yeux. Je n'y vois plus, je divague. Je suis humain, trop humain. J'appelle Girflay auprès de moi. Il me reste une chose à faire. Je sens le fidèle chevalier s'agenouiller près de son seigneur déchu. Je sais que je ne peux lui faire confiance. Pourtant, je dois traverser les étapes de la geste encore et encore. « Je suis là, sire, » annonce une voix grave. « Bien. » Je soupire. La douleur me cisaille les côtes. Je sens le monde dépérir avec mon sang qui se répand au sol sans l'abreuver. Une brise légère disperse la brume froide et la fumée. Elle m'apporte l'odeur fraîche du lac ou de la mer. L'île change de forme comme tout le reste, mais elle s'étrécit toujours davantage, j'en suis certain. « Prends Caladbolg, » dis-je en montrant l'épée, « et jette-la dans l'eau. » Il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que je le coupe déjà. « Oui, dans l'eau. » Et fais-le dès la première fois, car tu désobéiras. Tu la cacheras et reviendras me mentir. Je te demanderai ce que tu auras vu et tu seras incapable de me répondre qu'un bras vêtu de brocart chatoyant se sera saisi de Durandal et l'aura emporté sous l'onde. Tu vas faire 3 fois l'aller-retour avant de t'exécuter. Faut-il vraiment qu'on en passe encore par là? Je suis fatiguée, Girflay. Ou Bédiver, peu importe, aujourd'hui vous êtes les mêmes, je suis fatiguée. Je sens mon chevalier interloqué. À travers le voile écarlate, je le distingue qui se penche vers moi avec un air conspirateur. Mais tout doit aller par 3, sire, chuchote-t-il. C'est ainsi. Quelle bêtise avons-nous édictée? Je n'ose répondre que tout doit également aller par pair, par 4, 5, 7 ou 12. Tous les chiffres ont une symbolique propre. Mais inutile de discuter avec lui, il ne peut se transcender. Aujourd'hui, c'est l'archétype du second couteau. Alors dépêche-toi, au moins. Guenièvre. Cher journal, enfin du nouveau. Bien sûr, lorsqu'un nouveau motif s'ajoute à la geste, il devient immortel et s'y intègre comme s'il avait toujours existé. Nous-mêmes oublions jusqu'à cette évolution, nous devenons cette nouveauté, c'est pourquoi je dois coucher sur le papier ce qui s'est produit. L'enchanteur nous a rendu visite, avec sous le bras de nombreux rouleaux de parchemin. Il s'est longuement entretenu avec Arthur, et quand ils sont ressortis de la salle du conseil, mon époux avait ce regard vif que je n'avais plus vu depuis bien longtemps. Il a donné des instructions aux bûcherons, aux tisserands, aux serviteurs sans visage. Ceux-ci ont rapporté dans la cour les matériaux demandés par le barde magicien, longues tiges de bois, carrés de tissu, quelques mécanismes métalliques, et les ont assemblés selon les directives du vieillard. Quelle étrange créature s'est dressée devant nous. Un fin réseau arachnéen, un oiseau délicat, accueillant en son cœur un berceau où Merlin s'est installé. Je sens le souvenir s'estomper. Il faut croire que l'esprit n'a pas retenu cette histoire. Je dois conclure rapidement. La machine s'est mise à battre lentement des ailes, sa queue a tournoyé. Le mentor s'est envolé dans sa machine. Il est parti vers l'ouest et nous l'avons perdu de vue dans la brume qui entoure l'île. Il est revenu de l'est, bien sûr. Où a-t-il surgi de l'eau? Est-il tombé du ciel? Je ne sais plus. Quelle importance! Cette évolution de la geste est refusée, je le sens. Ainsi, j'oublierai jusqu'à l'existence de cet étrange objet, jusqu'à cette vision étrangère. Après tout, Merlin est un sage, un gardien des arcanes et du mystère. Sa magie vit dans le bruissement des arbres, dans le froissement de l'onde, pas dans une construction stérile. Tout cela ne cadrait donc pas avec son rôle. J'égarerai ce récit comme tous les autres, mais peut-être, au hasard des rangements, l'ai-je retrouvé. Une chose est sûre, en revanche, à présent l'île semble plus étroite encore. Ce matin, la mer léchait presque la muraille ouest d'Avalon Camelot. La table ronde. Repentez-vous, mugissait le Graal, repentez-vous! Lancelot se leva d'un bond, frappa d'un poing ganté d'argent sur la table et éclata. Je ne vais pas me laisser dicter ma vie par une saucière! Arthur promena sur ses chevaliers un regard où le désabusement le disputait à la vacuité. Au mur pendaient les mêmes tentures depuis la nuit des temps, et pourtant les symboles qui les ornaient évoluaient, coexistaient au même endroit, se fondaient les uns aux autres, arbres de vie celte, croix chrétienne, blason moyenâgeux d'azur aux six lionceaux d'or. L'espace semblait se distendre autour de la table ronde, de manière à accueillir à la fois 12 et 100 hommes selon les versions. Mais leur nombre importait peu. La table conservait sa forme, même si, parfois, des secteurs semblent s'y dessiner à la manière d'une gigantesque roue de fortune cosmique. Autour de celle-ci, seuls quelques visages étaient clairement identifiables. Le charisme minéral de Lancelot, la perfection angélique de Galahad le chaste, vue par certains comme l'incarnation du Christ, l'émerveillement juvénile de Perceval, qui commença la quête en toute innocence, en toute ignorance et échoua avant de réussir. Quoique, songea Arthur, son visage était justement masqué en partie par le Graal qu'il s'était mis sur la tête. Nul ne savait comment réagir. Perceval, qui symbolisait la naïveté et la fraîcheur, ne cessait de surprendre, de suivre un chemin dont la logique interne échappait toujours à l'esprit. Une manière polie d'expliquer qu'il se comportait en perpétuel imbécile. Arthur ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume de Bretagne. Le Graal prit la forme de la lance qui perça le flanc du Messie et tomba à terre dans un claquement métallique en éclaboussant de sang l'assistance. Galahad se serra inconsciemment les côtes. Le roi aussi. « Je ne suis pas qu'une saucière !» gloussa l'objet. « Je remplis ma fonction comme vous tous !» Des exclamations s'élevèrent dans la salle. « Silence !» intervint Arthur. Le souverain avait parlé. Tous se turent, sauf le Graal, qui devint la pierre de Fal, celle qui chante à l'approche du vrai roi et qui se mit donc fort logiquement à entonner « Chevalier de la table ronde !»« Que le Graal prenne encore une forme !» murmura Galahad, « et la quête sera terminée. Je poserai la question, je reviendrai et je soignerai le roi et le royaume. » « On n'en est pas encore revenu là, » tempéra Arthur. « Ton heure de gloire se répétera. Pour l'instant, c'est le tour de Perceval. » Arrivé pour la deuxième fois, « Goûtons voir ! Non, non, non !» Le Graal s'interrompit subitement. Il est reparti annonça Perceval, un peu triste. Probablement à l'étage en dessous, pensa Arthur, là où je joue le rôle du roi pêcheur en attendant qu'un chevalier vienne me poser la question qui me délivrera du mauvais sort, accomplissant ainsi la quête. Tout est simultané. Nous devons déclarer la guerre à Mordred le renégat, déclara Lancelot, raide comme un balai. Un voile passa sur le visage d'Arthur. Son regard se durcit, sa mâchoire se figea, mais après ce précaire instant, il soupira et leva les mains en signe de conciliation. Ton enthousiasme t'emporte. Je suis déjà mort hier et je mourrai demain. Laisse-moi aussi régner sur un royaume prospère. Ma chute n'a de valeur qu'en vertu de ma grandeur. Plus je serai noble, plus la trahison des miens frappera l'esprit. Plus mon amour sera pur, plus ma blessure sera profonde, plus grave sera la chute du royaume et la quête du Graal importante. Sois grand, Lancelot, et trahis-moi bien, c'est nécessaire. Un peu gêné, l'intéressé baissa les yeux sur la table en marmonnant « Des fois aussi, je reste vertueux. » Arthur laissa l'homme en paix et regarda l'assistance à géométrie variable, les visages reconnaissables surtout. Les autres étaient condamnés à rester anonymes, à n'avoir de valeur que par leur masse, à impressionner par leur nombre et rien de plus. Dans le fond, une petite voix piailla. « Nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des hommes libres !» Mais nul ne lui prêta attention, sauf l'ombre. La silhouette habillée de noirceur, debout adossée au mur. Les regards semblaient la traverser. Elle jeta un coup d'œil fugace vers le contestataire, mais la masse l'avait de nouveau avalée, censurée. L'ombre reporta son attention sur les chevaliers et sur Arthur. « Je ne vous ai pas convoqué dans le cadre de la geste, » reprit le roi. « Je crois qu'il est temps que nous ayons une discussion en tant que nous-mêmes. Nous jouons la quête, notre ascension et notre chute depuis... Ah, qu'importe! En tant que souverain idéal, j'accède au pouvoir et meurs trahi de mille manières différentes. Héros, personnages, figures mythologiques même, nous incarnons tous une infinité de variantes de la même idée, du même archétype, à la fois représentation de l'esprit et concept indépendant. Tous les chevaliers restaient tournés vers leur souverain, pétrifiés, le dévisageant avec incompréhension, comme s'ils entendaient ses paroles mais ne les comprenaient pas. Arthur, l'ours, Ambrosius Aurelianus, le dieu Lyre ou même Beowulf, sentit le vertige le gagner. « Nous sommes des archétypes, » répéta-t-il en hochant la tête, espérant asseoir ses paroles. « Pourtant, nous cherchons tous à fuir l'île. »«
Ya non !» mugit Lancelot en se levant. « Sire, c'est offense, mien bras est vost et yann est guerpiré !»
Arthur resta interdit. « Enfin, Lancelot, tu quittes l'île tous les 3 jours, et à chaque fois tu te noies, tu ne t'en souviens pas ?» Il entendait presque girfler Bédivert le sermonner d'un air coupable, comme s'il proférait une obscénité. « Mais tout doit aller par 3 ?»
Scandalisé, le chevalier renversa son vin sur le sol, puis sortit de la salle du conseil à la manière d'un ouragan.
« Il reviendra, » glissa Galahad. « Aucun d'entre nous ne peut vous déserter, sire. »« Sauf Mordred, » pensa amèrement Arthur.
« J'ai faim. On va manger ?» demanda le jeune Perceval un sourire crétin sur les lèvres.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Suite et fin des aventures de nos chevaliers de la table ronde dépressifs dans le prochain épisode du Utopod qui sera diffusé dans quelques jours. N'oubliez pas de faire de la pub pour Utopod autour de vous, de parler du projet et si le cœur vous en dit, de faire un petit don via le site. Et écrivez-moi à lucas@utopod.com pour me donner vos impressions sur l'émission. Je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de l'île close et en attendant, lisez beaucoup et passez un beau week-end archétypal. Bye bye!